Le temps. Jorge Luis Borges, 12e conférence du cycle Conférence, 1977-1978. Nietzsche n'aimait pas qu'on mit sur le même pied Goethe et Schiller. Et nous pourrions dire qu'il aime aussi irrespectueux d'associer en parole l'espace et le temps, car nous pouvons mentalement faire abstraction de l'espace, mais pas du temps. Supposons que nous n'ayons qu'un sens au lieu de cinq, que ce sens soit l'ouïe. Alors disparaît le monde visuel, c'est-à-dire que disparaissent le firmament, les astres. Si le toucher vient à nous manquer, alors disparaît la notion de l'âpre, du lisse, du rugueux, etc. S'il nous manque également l'odorat et le goût, nous perdons aussi ces sensations qui sont localisées dans la bouche et dans le nez. Il ne resterait donc que l'ouïe. Nous aurions là un monde possible qui pourrait se passer de l'espace, un monde d'individus qui pourraient communiquer entre eux, qui pourraient être des milliers ou des millions, et qui communiqueraient entre eux au moyen du langage. Rien ne nous empêche d'imaginer un langage aussi complexe et plus complexe que le nôtre, et au moyen de la musique. C'est-à-dire que nous pourrions avoir un monde où il n'y aurait rien d'autre que des consciences et de la musique. On pourrait m'objecter que la musique nécessite des instruments. Les instruments sont nécessaires pour la production de la musique. Mais si nous pensons à telle ou telle partition, nous n'avons besoin d'aucun instrument, piano, violon, flûte ou quoi que ce soit, pour l'imaginer. Nous aurions alors un monde aussi complexe que le nôtre, fait de conscience individuelle et de musique. Comme a dit Schopenhauer, la musique n'est pas quelque chose qui s'ajoute au monde, elle est un monde en soi. Dans ce monde, pourtant, le temps existerait toujours, car le temps est la succession. Si je m'imagine, si chacun de vous s'imagine dans une pièce obscure, le monde visible disparaît. Il disparaît de notre corps. Que de fois ne perdons-nous pas conscience de notre corps? Par exemple, moi, ici, ce n'est qu'au moment où je touche cette table avec ma main que j'ai conscience de ma main et de la table. Quelque chose se passe, mais quoi? Peut-être des perceptions, peut-être des sensations, ou simplement il s'agit de souvenirs ou d'imagination. Quelque chose se passe en tout cas. Je me souviens d'un beau vers de Tennyson, un des premiers vers qu'il ait écrit. Le temps s'écoule au milieu de la nuit. C'est là une idée très poétique. Lorsque tout le monde dort, le fleuve silencieux du temps, la métaphore est inévitable, s'écoule dans les champs, dans les souterrains, dans l'espace. Il s'écoule parmi les astres. Le temps est donc un problème essentiel. Je veux dire que nous ne pouvons pas faire abstraction du temps. Notre conscience passe continuellement d'un état à un autre et c'est cela le temps, la succession. Je crois qu'Henri Bergson a dit que le temps était le problème capital de la métaphysique. Si ce problème était résolu, tout serait résolu. Soit dit entre nous, il n'y a aucun risque qu'il soit résolu. Autrement dit, nous ne cesserons pas d'être anxieux. Nous pourrons toujours dire, comme saint Augustin, « Qu'est-ce que le temps ?» Quand personne ne me le demande, je le sais. Dès qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. Je ne sais pas si au bout de 20 ou 30 siècles de méditation, nous avons beaucoup avancé dans ce problème du temps. Je dirais que nous sentons toujours cette vieille perplexité, celle que ressentit mortellement Héraclite dans cet exemple auquel je reviens toujours. Personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve. Pourquoi ne se baigne-t-on jamais deux fois dans le même fleuve? Premièrement, parce que les eaux du fleuve ne cessent de couler. Deuxièmement, et c'est quelque chose qui nous touche métaphysiquement, qui nous cause comme un début d'horreur sacrée, parce que nous sommes nous-mêmes aussi un fleuve, que nous nous écoulons aussi sans cesse. Le problème du temps est là. C'est le problème de l'éphémère. Le temps passe. Je me rappelle ces beaux vers de Boileau. Hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. Mon présent, ou ce qui était mon présent, est déjà du passé. Mais ce temps qui passe ne passe pas entièrement. Par exemple, J'ai bavardé avec vous vendredi dernier. Nous pouvons dire que nous sommes autres aujourd'hui, car il nous est arrivé bien des choses à tous au cours de cette semaine. Pourtant, nous sommes les mêmes. Je sais que j'ai parlé ici même, que j'ai essayé de réfléchir à certains problèmes devant vous, et vous vous rappelez sans doute que vous étiez ici avec moi la semaine passée. En tout cas, un souvenir du temps reste dans la mémoire. La mémoire est individuelle. Nous sommes faits en grande partie de mémoire. Cette mémoire est faite en grande partie d'oubli. Il y a donc le problème du temps. Peut-être ce problème est-il insoluble. Voyons toutefois les solutions qu'on en a données. La plus ancienne remonte à Platon. Puis nous avons celle de Plotin et enfin celle de Saint-Augustin. C'est celle qui se réfère à l'une des plus belles inventions de l'homme. Car je prétends qu'il s'agit là d'une invention humaine. Vous penserez peut-être différemment si vous êtes croyant. Je veux parler de cette belle invention qu'est l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité ? Ce n'est pas la somme de tous nos hier. C'est tous nos hier, tous les hier de tous les êtres conscients. Tous les passés, ce passé dont on ne sait quand il a commencé. Puis aussi tout le présent. Ce moment présent qui englobe toutes les villes, tous les mondes, tous les espaces entre les planètes. Puis enfin l'avenir. L'avenir qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui néanmoins existe. Les théologiens supposent que l'éternité est en quelque sorte un instant dans lequel se rejoignent miraculeusement ces divers temps. Nous pouvons reprendre les mots de Plotin, qui ressentit profondément le problème du temps. Plotin dit « Il y a trois temps et tous les trois sont le présent. L'un est le présent actuel, le moment où je parle, c'est-à-dire le moment où j'ai parlé, car déjà ce moment appartient au passé. » Puis nous en avons un autre qui est le présent du passé, qu'on appelle la mémoire. Puis un troisième, le présent de l'avenir, qui est en quelque sorte ce que j'imagine de notre espérance ou notre peur. Venons-en maintenant à la solution que donna pour la première fois Platon, solution qui semble arbitraire mais qui pourtant ne l'est pas, comme j'espère vous le prouver. Platon a dit que le temps est l'image en mouvement de l'éternité. Le temps commence par de l'éternité, par un être éternel, et cet être éternel veut se projeter en d'autres êtres. Or, il ne peut le faire dans son éternité, il doit le faire dans la succession. Le temps est en quelque sorte l'image en mouvement de l'éternité. Le grand mystique anglais William Blake a dit « Le temps est un don de l'éternité ». Si on nous donnait la totalité de l'être, l'être est plus que l'univers, plus que le monde. Si on nous montrait une seule fois la totalité de l'être, nous serions écrasés, anéantis, morts. Par contre, le temps est un don de l'éternité. L'éternité nous permet toutes ces expériences dans la succession. Nous avons des jours et des nuits, nous avons les heures, les minutes, nous avons la mémoire, la sensation du présent, puis nous avons l'avenir, l'avenir dont nous ignorons encore ce qu'il sera, mais que nous pressentons ou craignons. Tout cela nous est donné successivement car nous ne pourrions pas supporter l'intolérable poids, l'intolérable impact de tout l'être de l'univers. Tout cela nous est donné successivement car nous ne pourrions pas supporter l'intolérable poids, l'intolérable impact de tout l'être de l'univers. Le temps serait donc un don de l'éternité. L'éternité nous permet de vivre dans la succession. Schopenhauer dit qu'heureusement pour nous, notre existence se divise en jour et en nuit. Notre existence est interrompue par le sommeil. Nous nous levons le matin, nous passons la journée, puis nous dormons. S'il n'y avait pas le sommeil, il serait intolérable de vivre, nous ne serions pas maîtres de nos plaisirs. Nous ne pouvons pas assumer la totalité de l'être. Aussi, tout nous est-il donné, mais graduellement. La métempsycose répond à une idée voisine. Peut-être serions-nous à la fois, comme le croient les panthéistes, tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux, tous les hommes. Mais heureusement, nous ne le savons pas. Heureusement, nous croyons en l'individualité. Sinon, nous serions accablés, nous serions anéantis par cette plénitude. J'en arrive maintenant à saint Augustin. Personne, je crois, n'a senti plus intensément que lui le problème du temps, cette mise en question du temps. Saint Augustin dit que son âme brûle, qu'il brûle de savoir ce qu'est le temps, et il demande à Dieu de lui révéler ce qu'est le temps. Non pas par vaine curiosité, mais parce qu'il ne peut pas vivre sans le savoir. C'est en quelque sorte la question essentielle. Et comme Bergson dira plus tard, le problème essentiel de la métaphysique. Saint Augustin explique tout cela avec feu. Prenons l'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent ? C'est le moment qui comporte un peu de passé et un peu d'avenir. Le présent en soi est comme le point en géométrie. Le présent en soi n'existe pas. Ce n'est pas une donnée immédiate de notre conscience. Nous avons donc ce présent et nous voyons qu'il est graduellement en train de devenir du passé, en train de devenir de l'avenir. Il y a deux théories du temps. La première, qui correspond, je crois, à ce que nous pensons tous, considère le temps comme un fleuve qui coule depuis le commencement, l'inconcevable commencement du temps, et qui est parvenu jusqu'à nous. Puis nous avons l'autre théorie, celle du métaphysicien anglais James Bradley. Celui-ci dit que c'est le contraire qui se passe, que le temps s'écoule de l'avenir vers le présent, que l'instant où le futur devient du passé, c'est l'instant que nous appelons le présent. Nous pouvons choisir entre ces deux métaphores. Nous pouvons situer la source du temps dans l'avenir ou dans le passé, peu importe. Nous sommes toujours devant le fleuve du temps. Mais comment résoudre le problème de l'origine du temps ? Platon a donné la solution suivante. Le temps procède de l'éternité et ce serait une erreur de dire que l'éternité est antérieure au temps. Car dire qu'elle est antérieure, c'est dire que l'éternité appartient au temps. Ce serait aussi une erreur de dire, comme Aristote, que le temps est la mesure du mouvement, car le mouvement a lieu dans le temps et il ne peut pas expliquer le temps. Il y a une belle phrase de saint Augustin. Non, pas dans le temps, mais avec le temps, Dieu créa les cieux et la terre. Les premiers versets de la Genèse se réfère non seulement à la création du monde, à la création des mers, de la terre, des ténèbres et de la lumière, mais aussi au début du temps. Il n'y a pas eu un temps antérieur. Le monde a commencé à être avec le temps et depuis lors, tout est successif. Il y a cette idée qui ressemble d'ailleurs à appartenir au commun des mortels. C'est l'idée de l'unicité du temps. Elle fut émise par Newton, mais avant lui, l'opinion générale l'avait déjà pressentie. Quand Newton parle du temps mathématique, c'est-à-dire d'un seul temps qui s'écoule à travers tout l'univers, ce temps s'écoule maintenant en des lieux vides, il s'écoule parmi les astres, il s'écoule de façon uniforme. Mais le métaphysicien anglais Bradley a dit qu'il n'y avait aucune raison de supposer une telle chose. Nous pouvons supposer qu'il existe diverses séries de temps, disait-il, sans rapport les unes avec les autres. Nous aurions une série que nous pourrions appeler A, B, C, D, E, F. Ces données ont un lien entre elles. Les unes sont postérieures aux autres, ou antérieures ou contemporaines. Mais nous pourrions imaginer une autre série, alpha, bêta, gamma. Nous pourrions imaginer d'autres séries de temps. Pourquoi n'imaginer qu'une seule série de temps ? Je ne sais pas si votre imagination accepte cette idée. L'idée est qu'il y a plusieurs séries de temps et que ces séries de temps ne sont ni antérieures, ni postérieures, ni contemporaines. Naturellement, les éléments de ces séries sont antérieurs, contemporaines, contemporains ou postérieurs les uns par rapport aux autres. Ce sont des séries différentes. Nous pourrions imaginer qu'il y en va de même de nos êtres conscients. Pensons par exemple à Leibniz. L'idée est que chacun de nous vit une série de faits et que cette série de faits peut être parallèle ou non à d'autres. Pourquoi accepter cette idée ? Il est plausible, on aurait ainsi un monde plus vaste, beaucoup plus étrange que le monde actuel. C'est l'idée qu'il n'y a pas un temps unique. Je crois que cette idée n'est pas rejetée par la physique actuelle, que je ne comprends pas et que je connais mal. L'idée est qu'il y a des temps divers. Pourquoi imaginer un temps unique, un temps absolu, comme imaginait Newton ? Revenons maintenant au thème de l'éternité, à l'idée de l'éternité qui cherche à se manifester d'une façon ou d'une autre, qui se manifeste dans l'espace et dans le temps. L'éternité est le monde des archétypes. Dans l'éternité, par exemple, il n'y a pas des triangles, il n'y a qu'un seul triangle qui n'est ni équilatéral, ni isocèle, ni scalène. Ce triangle dans l'éternité est ces trois choses à la fois, et aucune d'elles. Le fait qu'un tel triangle soit inconcevable importe peu. Ce triangle existe. On pourrait dire aussi que chacun d'entre nous est une copie temporelle et mortelle de l'archétype humain. Le problème serait alors de savoir si chaque homme a ou non son archétype platonique. Cet absolu veut donc se manifester et il se manifeste dans le temps. Le temps est l'image de l'éternité. Je crois que ceci pourrait nous aider à comprendre pourquoi le temps est successif. Il est successif parce que venant de l'éternité, il veut y retourner. Autrement dit, l'idée de futur correspond à notre désir d'un retour aux sources. Dieu a créé le monde, tout l'univers des créatures, veut retourner à cette source éternelle qui est intemporelle, non antérieure au temps, ni postérieure, mais hors du temps. C'est ce qu'on retrouve dans l'élan vital. C'est ce qui expliquerait aussi que le temps soit en mouvement constant. On a dit que le présent n'existait pas. Certains philosophes des Indes ont prétendu qu'il n'y a pas un moment où le fruit tombe. Le fruit va tomber ou est au sol, mais il n'y a pas un moment où il tombe. Il est curieux de constater que des trois temps, le passé, le présent et le futur, dans lequel nous avons divisé le temps, le plus difficile à concevoir, le plus insaisissable, soit le présent. Le présent est aussi insaisissable que le point. Car si nous imaginons celui-ci sans extension, il n'existe pas. Nous devons imaginer que le présent apparent est en quelque sorte un peu le passé et un peu l'avenir. C'est-à-dire que nous sentons le temps qui passe. Que je parle du temps qui passe, je parle de quelque chose que nous ressentons tous. Si je parle du présent, je parle de quelque chose d'abstrait. Le présent n'est pas une donnée immédiate de la conscience. Nous sentons que nous évoluons dans le temps, c'est-à-dire que nous pouvons concevoir que nous passons du futur au passé ou du passé au futur, mais à aucun moment nous ne pouvons dire au temps « Arrête-toi, tu es si beau », comme le souhaitait Goethe. Le présent ne s'immobilise pas. Un pur présent est impensable. Il serait inexistant. Il comporte toujours une parcelle de passé et une parcelle de futur. Il semble que cela soit indispensable au temps. Dans l'expérience que nous en avons, le temps ressemble toujours au fleuve d'Héraclite. Nous en revenons toujours à cette vieille allégorie. C'est à croire que nous n'avons guère avancé au cours des siècles. Nous sommes toujours Héraclite contemplant son reflet dans le fleuve, pensant que ce fleuve n'est plus le même car les eaux ont changé, et pensant qu'il n'est plus le même Héraclite car il a été d'autres personnes entre la dernière fois qu'il a vu ce fleuve et la fois présente. Autrement dit, nous sommes un être qui change et qui reste permanent. Nous sommes des êtres essentiellement mystérieux. Que serions-nous sans la mémoire ? Une mémoire qui est une bonne partie faite d'oubli, mais qui est essentielle. Il n'est pas nécessaire pour continuer à être ce que je suis, que je me souvienne par exemple que j'ai vécu à Palerme, à Adrogué, à Genève, en Espagne. Je sens bien en même temps que je ne suis pas la même personne qui habita dans ces endroits, que je suis autre. C'est le problème que nous ne pourrons jamais résoudre, le problème de notre identité changeante. Peut-être suffit-il de parler de changement. Car si nous disions que quelque chose a changé, nous ne voulons pas dire que ce quelque chose a été remplacé par quelque chose d'autre. Nous disons « la plante a poussé ». Nous ne voulons pas dire par là qu'une plante petite a remplacé, est remplacée par une plante plus grande. Nous voulons dire que cette plante s'est transformée en quelque chose de différent. Autrement dit, c'est l'idée de la permanence dans l'éphémère. L'idée du futur viendrait en quelque sorte justifier cette vieille idée de Platon que le temps est l'image en mouvement de ce qui est éternel. Si le temps est l'image de ce qui est éternel, le futur serait donc le mouvement de l'âme vers l'avenir. L'avenir serait à son tour le retour de ce qui est éternel. Notre vie serait donc une continuelle agonie. Quand saint Paul dit « je meurs chaque jour », ce n'est pas une image pathétique. Nous ne cessons de naître et de mourir. C'est pourquoi le problème du temps nous touche plus que les autres problèmes métaphysiques, car les autres problèmes sont abstraits. Le problème du temps est notre problème. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Peut-être le saurons-nous un jour, peut-être que non. Mais entre-temps, comme dit saint Augustin, « mon âme brûle car je désire le savoir ».